Chapitre 26. La deuxième tâche.
Tu m'avais dit que tu avais déjà résolu l'énigme de cet œuf, s'exclama Hermione d'un ton indigné. Ne crie pas comme ça, répondit Harry avec colère. J'ai simplement besoin d'affiner les choses, d'accord?
Ron, Hermione et lui étaient assis à la même table, tout au fond de la classe d'enchantement. Ce jour-là, ils devaient apprendre le sortilège d'expulsion, c'est-à-dire le contraire du sortilège d'attraction. Afin d'éviter tout risque d'accident, le professeur Flitwick leur avait donné une pile de coussins qu'ils pouvaient faire voler à travers la salle sans blesser personne en cas d'erreur de trajectoire. Neville visait si mal, cependant, qu'il envoyait par erreur d'autres projectiles beaucoup plus lourds à l'autre bout de la classe. Le professeur Flitwick, par exemple.
« Oublie un peu cet œuf de temps en temps, tu veux bien ?» murmura Harry, tandis que le professeur Flitwick, apparemment résigné, leur passait devant le nez dans un long vol plané et atterrissait au sommet d'une grande armoire. « J'essaie de te parler de Rogue et de Maugret. »
C'était le cours idéal pour avoir une conversation privée. Les autres s'amusaient tellement qu'ils ne leur prêtaient aucune attention. Harry avait passé la demi-heure précédente à relater en plusieurs épisodes, entrecoupés de lancers de coussins, les événements de la nuit passée.
« D'après Rogue, Maugret aussi a fouillé son bureau. » chuchota Ron, une lueur de curiosité dans l'œil, tout en projetant un coussin d'un coup de baguette magique. Le coussin vola un peu trop bas et fit tomber le chapeau de Parvati. « Alors quoi? Tu crois que Maugret serait ici pour surveiller Rogue autant que Karkaroff? » « Je ne sais pas si Dumbledore le lui a demandé, mais en tout cas, c'est ce qu'il fait, » répondit Harry.
Il agita machinalement sa baguette magique en voyant son coussin atterrir mollement sur une table.
« Maugret prétend que Dumbledore garde Rogue parce qu'il veut lui donner une deuxième chance ou quelque chose dans ce genre-là. »« Quoi ?» dit Ron, les yeux écarquillés.
Le coussin qu'il venait de projeter dans les airs d'un coup de baguette magique rebondit sur le lustre et tomba lourdement sur le bureau de Flitwick.
« Harry, Maugret croit peut-être que c'est Rogue qui a mis ton nom dans la coupe de feu. »« Allons, Ron !» dit Hermione en hochant la tête d'un air sceptique. « À un moment, on a cru que Rogue voulait tuer Harry, et en fait, il lui a sauvé la vie, tu te souviens ?»
Elle jeta un sortilège d'expulsion qui envoya un coussin à l'autre bout de la classe où il atterrit impeccablement dans la boîte prévue à cet effet. Harry regarda Hermione et réfléchit à ce qu'elle venait de dire. Il est vrai que Rogue lui avait sauvé la vie un jour, ce qui paraissait étrange car Rogue le détestait cordialement, tout comme il avait détesté le père de Harry lorsqu'ils étaient à l'école ensemble. Il aimait par-dessus tout ôter des points à Harry et n'avait jamais laissé passer une occasion de lui infliger une punition, ou même de suggérer son renvoi de Poudlard.
« Je m'en fiche de ce que dit Maugret, » poursuivit Hermione. « Dumbledore n'est pas idiot. Il a eu raison de faire confiance à Hagrid et au professeur Lupin, alors que beaucoup d'autres ne leur auraient jamais confié le moindre travail. Alors pourquoi n'aurait-il pas aussi raison en ce qui concerne Rogue, même si Rogue est un peu malfaisant ?» dit aussitôt Ron. « Réfléchis un peu, Hermione. Pourquoi tous ces chasseurs de mages noirs iraient-ils fouiller dans son bureau ?»«
Pourquoi M. Croupton a-t-il fait semblant d'être malade ?» reprit Hermione sans prêter attention à ce qu'avait dit Ron.
« C'est quand même un peu bizarre qu'il ne puisse pas assister au bal de Noël, mais qu'il soit capable de venir ici au milieu de la nuit. »«
Tu n'aimes pas Croupton à cause de ce qu'il a fait à son elfe ?» dit Ron en envoyant un coussin s'écraser contre la fenêtre.
« Et toi, tu tiens absolument à ce que Rogue mijote quelque chose de louche ?» répliqua Hermione, qui réussit une fois de plus à faire atterrir son coussin dans la boîte.
« J'aimerais simplement savoir ce qu'a fait Rogue quand on lui a donné sa première chance, puisque maintenant, c'est sa deuxième, » dit Harry d'un ton sinistre. À sa grande surprise, son propre coussin vola à travers la salle et alla se poser exactement sur celui d'Hermione. Obéissant au vœu de Sirius, qui voulait être tenu au courant de tout ce qui se passait d'inhabituel à Poudlard, Harry lui envoya ce soir-là une lettre par Scoutibou, un hibou de l'école qui était toujours prêt pour lui raconter que M. Croupton s'était introduit dans le bureau de Rogue et lui rapportait en détail la conversation entre Rogue et Maugret. Harry se concentra ensuite très sérieusement sur le problème le plus urgent auquel il devait faire face, comment survivre en restant une heure sous l'eau le 24 février. Ron était partisan d'utiliser à nouveau le sortilège d'attraction. Harry lui avait en effet parlé des équipements de plongée sous-marine dont se servaient les moldus, et Ron ne voyait pas ce qui l'empêchait d'en faire venir un de la ville moldue la plus proche grâce à un sortilège d'attraction. Mais Hermione balaya l'idée en faisant observer que, même si Harry apprenait à faire fonctionner des bouteilles à oxygène dans le temps qui lui était imparti, il était sûr d'être disqualifié pour avoir violé le code international du secret magique. Impossible, en effet, de faire voler un équipement de plongée sous-marine sur des kilomètres sans qu'aucun moldu ne le remarque. Bien sûr, la solution idéale, ce serait de te transformer en sous-marin ou quelque chose dans ce genre-là, dit Hermione. Si seulement nous avions déjà étudié la métamorphose humaine. Mais on ne l'aborde qu'en 6e année et ça peut tourner très mal quand on ne sait pas bien s'y prendre.
Oui, je n'ai pas envie de me promener avec un périscope sur la tête, dit Harry. Peut-être que si j'attaque quelqu'un en présence de mon gré, il fera ça pour moi.
Je ne pense pas qu'il te laissera choisir en quoi tu veux être transformé, dit Hermione d'un ton sérieux.
Non, je crois que ta seule chance, c'est d'utiliser un sortilège.
Ainsi, Harry, qui pensait avoir déjà passé suffisamment de temps à la bibliothèque pour le reste de ses jours, se plongea à nouveau dans des piles de volumes poussiéreux en quête d'un sortilège qui puisse donner à un être humain la faculté de se passer d'oxygène.
Ron, Hermione et lui eurent beau consacrer leurs heures de déjeuner, leurs soirées et des week-ends entiers à chercher, ils ne trouvèrent rien qui permette à Harry de rester une heure sous l'eau et d'en sortir vivant. Même dans la réserve de la bibliothèque à laquelle ils avaient accès grâce à un mot du professeur McGonagall, et même après avoir demandé conseil à Madame Pince, l'irritable bibliothécaire à tête de vautour.
Par moments, Harry se sentait pris d'une telle panique qu'il avait du mal à se concentrer pendant les cours. Le lac, qui avait toujours été pour lui un simple élément du paysage, attirait à présent son regard chaque fois qu'il était assis près d'une fenêtre. Sa vaste étendue grise et froide, aux profondeurs sombres et glacées, lui semblait désormais aussi inaccessible que la lune.
De la même manière qu'avant l'épreuve du dragon, le temps filait à toute vitesse, comme si on avait ensorcelé montres et pendules pour qu'elles tournent plus vite. Il restait une semaine avant le 24 février. Il avait encore du temps. Puis il ne resta plus que 5 jours. Il fallait très vite trouver quelque chose.
Plus que 3 jours. « S'il vous plaît, faites que je trouve quelque chose, s'il vous plaît !»
2 jours avant, Harry fut à nouveau incapable de manger. La seule bonne nouvelle, pendant le petit déjeuner du lundi, fut le retour du hibou qu'il avait envoyé à Sirius. Il détacha le parchemin, le déroula et lut le mot le plus court que Sirius lui eût jamais écrit.
« Fais-moi savoir la date du prochain week-end à Préaulard par retour de hibou. »
Harry retourna le parchemin, mais rien d'autre n'était écrit au verso.
« C'est le week-end après celui qui vient, » murmura Hermione, qui avait lu par-dessus son épaule. « Tiens, prends ma plume et renvoie-lui immédiatement ce hibou. »
Harry griffonna la date au dos du parchemin. Il l'attacha à nouveau à la patte du hibou et le regarda s'envoler. À quoi s'était-il attendu? À un conseil pour lui indiquer comment respirer sous l'eau? Il s'était tellement appliqué à raconter à Sirius tout ce qui s'était passé entre Rogue et Maugret qu'il avait complètement oublié de lui parler de l'œuf d'or.
« Pourquoi est-ce qu'il veut connaître la date du prochain week-end après Aulard ?» s'étonna Ron.
« C'est pas, » répondit Harry, l'air abattu. Le moment de bonheur qu'il avait ressenti en voyant arriver le hibou s'était évanoui.
« Venez, » dit-il, « on a un cours de soins aux créatures magiques. »
Hagrid voulait-il se faire pardonner la dernière séance avec les scrotes à pétards, qui d'ailleurs n'étaient plus que deux, ou bien essayait-il de prouver qu'il pouvait faire aussi bien que le professeur Gobe-Planche? Harry n'en savait rien, mais en tout cas, depuis qu'il avait recommencé à travailler, il avait poursuivi le cours sur les licornes. Il apparut très vite que Hagrid en savait autant à leur sujet que sur les monstres, même s'il semblait regretter qu'elles soient dépourvues de crochets venimeux. Ce jour-là, il avait réussi à capturer 2 poulains de licornes. À la différence des licornes adultes, ils avaient une couleur d'or pur. Parvati et Lavande éprouvèrent un véritable ravissement en les voyant, et même, Pansy Parkinson, dut faire de sérieux efforts pour ne pas montrer à quel point elle les trouvait adorables.
« Les petits sont plus faciles à repérer que les adultes, »
expliqua Hagrid.
« Les licornes prennent une couleur argentée vers l'âge de 2 ans et ils leur poussent une corne vers 4 ans. Elles ne deviennent complètement blanches qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire aux environs de 7 ans. Elles sont un peu plus confiantes quand elles sont toutes petites, mais elles n'aiment pas beaucoup les garçons. Venez, approchez-vous, vous pouvez les caresser si vous voulez. Voilà, oui, donnez-leur ces morceaux de sucre. »
Tandis que la plupart des élèves se rassemblaient autour des bébés licornes, Hagrid se glissa vers Harry.
« Ça va ? »
lui demanda-t-il.
« Oui, oui, » assura Harry.
« Un peu le trac, sans doute, »
dit Hagrid.
« Un peu, » avoua Harry.
Hagrid abattit une de ses énormes mains sur son épaule et Harry sentit ses genoux fléchir sous le choc.
« Tu sais, Harry,
Je me suis fait du souci pour toi avant que tu affrontes le dragon. Maintenant, je sais que tu es capable de réussir tout ce que tu veux. Je ne suis absolument plus inquiet. Ça se passera très bien. Tu as résolu l'énigme, pas vrai ?
Harry approuva d'un signe de tête, mais il ressentit en même temps un besoin irrépressible d'avouer qu'il n'avait pas la moindre idée de la façon dont on devait s'y prendre pour arriver à passer une heure au fond de l'eau. Il leva les yeux vers Hagrid. Peut-être était-il obligé, parfois, de descendre dans le lac pour s'occuper des créatures qui y vivaient. Après tout, c'était lui qui prenait soin de tout ce qu'il y avait dans le parc.
« Tu vas gagner !»
grogna Hagrid en le gratifiant d'une nouvelle tape sur l'épaule qui donna à Harry l'impression de s'enfoncer de 5 centimètres dans le sol boueux.
« Je le sais, je le sens. Tu vas gagner, Harry !»
Le sourire qui éclairait le visage de Hagrid était si heureux, si confiant, que Harry ne put se résoudre à dire quoi que ce soit, de peur de le voir s'effacer. Il se força à sourire également, puis, faisant mine de s'intéresser aux jeunes licornes, il s'en approcha à son tour pour les caresser en même temps que les autres. La veille de la deuxième tâche, Harry eut l'impression d'être prisonnier d'un cauchemar. Il avait parfaitement conscience que même si par un quelconque miracle il arrivait à trouver un sortilège adéquat, il lui serait très difficile d'apprendre à le maîtriser en une nuit. Comment avait-il pu se mettre dans une telle situation? Pourquoi n'avait-il pas cherché à résoudre l'énigme de l'œuf plus tôt? Pourquoi avait-il si souvent négligé d'écouter ce que les professeurs disaient en classe? Peut-être que l'un d'eux avait un jour parlé d'un moyen de respirer sous l'eau. Tandis que le soleil se couchait, Harry, Ron et Hermione, assis dans la bibliothèque, cachés par les immenses piles de livres qui les entouraient, feuilletaient fébrilement des pages et des pages remplies de sortilèges les plus divers. Harry sentait son cœur bondir dans sa poitrine chaque fois qu'il voyait apparaître le mot « eau ». Mais la plupart du temps, il s'agissait tout simplement de mélanger 2 pintes d'eau, 1 demi-livre de feuilles de mandragore hachées et 1 salamandre. « Je pense que c'est tout simplement impossible », dit soudain Ron à l'autre bout de la table. « Il n'y a rien, rien. Ce qui s'en rapprocherait le plus, c'était ce truc pour assécher les flaques et les mares, le sortilège de sécheresse, mais c'est pas assez puissant pour vider un lac. » Il doit sûrement exister quelque chose, marmonna Hermione, en approchant une chandelle pour mieux voir. Elle avait les yeux si fatigués qu'elle était obligée de coller le nez sur les minuscules caractères de sorts et enchantements anciens et oubliés pour arriver à les lire. Il n'aurait jamais imposé une tâche impossible à accomplir, fit-elle remarquer. C'est pourtant ce qu'ils ont fait, dit Ron. Harry, demain, tu n'as plus qu'à descendre au bord du lac, plonger la tête dans l'eau, crier aux sirènes de te rendre ce qu'elles t'ont volé et voir si elles acceptent de te le renvoyer. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, mon vieux. « Il y a un moyen d'y arriver !» dit Hermione avec colère. « Il y en a forcément un !» Elle semblait considérer le manque d'informations de la bibliothèque sur ce sujet comme une insulte personnelle. Jamais, jusqu'à présent, la bibliothèque ne l'avait trahi. « Je sais ce que j'aurais dû faire !» dit Harry en s'attardant la tête penchée sur Rory et Fourberie pour sorcier hardy. « J'aurais dû apprendre à être Animagus, comme Sirius. » « Oui, tu aurais pu te transformer en poisson rouge quand tu l'aurais voulu, » dit Ron.
« Oui, ou en grenouille, »
ajouta Harry en bâillant. Il était épuisé. « Il faut des années pour devenir un Animagus, et en plus, on est obligé de se déclarer, » dit vaguement Hermione, qui consultait l'index de dilemmes de la sorcellerie insolite et leurs solutions. Le professeur McGonagall nous l'a dit, vous vous souvenez? Il faut se faire enregistrer comme tel par le service des usages abusifs de la magie, préciser en quel animal on se transforme, indiquer ses signes particuliers pour qu'on ne puisse pas s'en servir à des fins malhonnêtes.
« Hermione, je plaisantais, » dit Harry d'un ton là. « Je sais bien que je n'ai aucune chance d'apprendre à me transformer en grenouille d'ici à demain matin. »
« Ce livre ne sert à rien, » dit Hermione en refermant d'un coup sec les dilemmes de la sorcellerie insolite. Qui donc aurait envie de faire des frisettes à ses poils de nez ?
Moi, ça me plairait assez, dit la voix de Fred Wesley. C'est un bon moyen de faire parler de soi, non ?
Harry, Ron et Hermione levèrent la tête en même temps. Fred et George avaient surgi de derrière un rayon de livres.
Qu'est-ce que vous faites là ? Demanda Ron.
On te cherchait, répondit George. McGonagall veut te voir et toi aussi, Hermione.
Pourquoi ? S'étonna Hermione.
C'est pas, mais elle avait l'air sinistre, dit Fred.
« On est chargé de vous emmener dans son bureau, » dit George.
Ron et Hermione regardèrent Harry, qui sentit son estomac se retourner. Le professeur McGonagall avait-elle quelque chose à leur reprocher ? Elle avait peut-être remarqué qu'il passait beaucoup de temps à l'aider
alors qu'il était censé réfléchir tout seul aux moyens d'accomplir sa tâche. « On se retrouve dans la salle commune, » dit Hermione, qui se leva en même temps que Ron. Tous deux avaient l'air très inquiets. « Apporte autant de livres que tu pourras, d'accord ?»«
D'accord, » répondit Harry mal à l'aise.
Vers 8 heures, Madame Pince avait éteint toutes les lampes et elle chassa Harry de la bibliothèque. Titubant sous le poids des livres qu'il avait emportés, le plus grand nombre possible, Harry retourna dans la tour de Gryffondor, tira une table dans un coin à l'écart des autres et continua à chercher. Il n'y avait rien dans « Magie ma boule pour sorcier sonné », rien dans « Le guide de la sorcellerie médiévale », pas la moindre allusion à des exploits sous-marins dans « Anthologie des enchantements au XVIIIe siècle », ni dans « Créatures abominables des profondeurs », pas davantage dans les pouvoirs que vous avez toujours eus sans le savoir et comment les utiliser maintenant que vous êtes un peu plus sage. Patanron va se pelotonner sur les genoux de Harry et se mit à ronronner avec force. La salle commune se vidait peu à peu. Avant de monter dans leur dortoir, ses camarades lui souhaitaient bonne chance d'un ton allègre et confiant, comme Hagrid. Apparemment, tout le monde était convaincu qu'il allait réaliser un nouvel exploit éblouissant comme le jour de la première tâche. Incapable de prononcer un mot, Harry se contentait de répondre d'un signe de tête. Il avait l'impression d'avoir une balle de golf coincée dans la gorge. À 9:50, il demeura seul dans la salle avec Patron. Il avait cherché dans tous les livres qui restaient, et Ron et Hermione n'étaient toujours pas revenus.
« C'est fini, » se dit-il. « Impossible d'y arriver. Il faudra descendre au bord du lac demain matin et déclarer forfait devant les juges. »
Il s'imagina en train d'expliquer qu'il était incapable d'accomplir la tâche. Il se représenta le visage aux yeux ronds de surprise de Verpet, le sourire satisfait de Karkaroff découvrant ses dents jaunes. Il avait l'impression d'entendre Fleur de la Cour dire
« Enfin, c'est insensé, je le savais bien, il est trop jeune, c'est un petit garçon !»«
Quelle organisation, vraiment !» Il voyait déjà Malfoy arborer son badge à Abba Potter au premier rang de la foule. Il voyait le visage incrédule, déconfit de Hagrid. Oubliant que Patanron était sur ses genoux, Harry se leva brusquement. Le chat tomba par terre en crachant avec fureur, puis il jeta un regard dégoûté à Harry et s'éloigna la queue dressée. Mais Harry montait déjà 4 à 4 l'escalier du dortoir. Il voulait prendre sa cape d'invisibilité et retourner à la bibliothèque. Il resterait toute la nuit, s'il le fallait.
« Lumos !»
murmura Harry un quart d'heure plus tard en ouvrant la porte de la bibliothèque. L'extrémité de sa baguette magique allumée, il se glissa le long des rayonnages pour prendre d'autres livres. Des livres sur les maléfices, les enchantements, les sortilèges, des livres sur les sirènes et les monstres aquatiques, des livres sur les sorcières et les sorciers célèbres, sur les inventions magiques, sur tout ce qui pouvait avoir un rapport quelconque avec la survie sous l'eau. Il emporta la pile de volumes sur une table, puis se mit au travail. Éclairant les pages avec le mince faisceau lumineux de sa baguette magique, jetant de temps à autre un coup d'œil à sa montre. 1 heure du matin.
2 heures du matin.
La seule façon de se tenir éveillé, c'était de se répéter inlassablement.
Dans le prochain livre, il y aura quelque chose dans le prochain livre.
Par la salle de bain des préfets, la sirène du tableau riait aux éclats. Harry était ballotté comme un bouchon à la surface d'une eau pleine de mousse, juste à côté du rocher sur lequel elle était allongée. D'une main, elle agitait l'éclair de feu au-dessus de sa tête.
« Allez, attrape-le » disait-elle avec un rire narquois. « Vas-y, saute !»«
Je ne peux pas !»
répondait Harry d'un ton haletant. Il essayait vainement d'attraper l'éclair de feu en s'efforçant de ne pas couler.
« Rends-le-moi !»
Mais elle se contentait de lui donner de petits coups dans les côtes avec le manche du balai et riait de plus belle.
« Ça fait mal, arrête, aïe !»«
Harry Potter doit se réveiller, monsieur. »«
Arrête de me donner des coups !»«
Dobby doit donner des coups à Harry Potter, monsieur, il faut qu'il se réveille !»
Harry ouvrit les yeux. Il était toujours dans la bibliothèque. La cape d'invisibilité avait glissé quand il s'était endormi et sa tête reposait sur les pages de « Tant qu'il y a de la magie, il y a de l'espoir ». Il se redressa, rajusta ses lunettes et cligna des yeux à la lumière du jour.
« Harry Potter doit se dépêcher !»
couina Dobby.
« La deuxième tâche commence dans 10 minutes et Harry Potter... »«
10 minutes ? 10 minutes !»
Il regarda sa montre. Dobby disait vrai, il était 9h20. Harry eut l'impression qu'un grand poids lui tombait sur l'estomac.
« Dépêchez-vous, Harry Potter !»
s'écria Dobby en tirant Harry par la manche.
« Il faut descendre au bord du lac avec les autres champions, monsieur !»
« Il est trop tard, Dobby !» dit Harry d'une voix désespérée. « Je n'accomplirai pas cette tâche, j'en suis incapable !»
Harry Potter accomplira la tâche. Dobby sait que Harry Potter n'a pas trouvé le bon livre, alors Dobby a trouvé pour lui.
Quoi ? S'exclama Harry. Mais tu ne sais pas en quoi consiste la deuxième tâche.
Dobby sait, monsieur. Harry Potter doit plonger dans le lac et trouver son whisky.
Trouver mon quoi ?
Il doit reprendre son whisky au peuple des sirènes.
Un whisky ? Qu'est-ce que tu racontes ?
Votre whisky, monsieur, le monsieur whisky qui a donné à Dobby son pull vert.
Dobby tira sur le pull violet et rétréci qu'il portait maintenant par-dessus son short.
Quoi ?
S'écria Harry. Tu veux dire Wesley ? Ron Wesley ? Ils ont capturé Ron ?
Ce qui est le plus cher à Harry Potter, monsieur,
dit Dobby.
Et après le récoulé...
« Renonce à tout espoir, » récita Harry, frappé d'horreur. « Tes efforts seront vains, car il sera trop tard. »« Dobby, qu'est-ce que je dois faire ?»«
Il faut manger ceci, monsieur. »
Il sortit de la poche de son short une boule qui semblait constituée d'un enchevêtrement de queues de rat grises et gluantes.
« Juste avant de plonger dans l'eau, monsieur, ce sont des branchiflores. »
Et qu'est-ce que ça fait ? Demanda Harry en regardant la boule.
« La branchiflore permettra à Harry Potter de respirer sous l'eau, monsieur. »«
Tant pis, » dit Harry d'un ton frénétique. « Tu es sûr de ça ?» Il n'était pas prêt d'oublier le jour où Dobby avait essayé de l'aider et où tous ses os du bras droit avaient disparu.
« Dobby en est absolument sûr, monsieur. »
répondit l'elfe d'un air très sérieux.
« Dobby entend les choses, monsieur. C'est un elfe de maison. » Il va partout dans le château pour allumer les feux et laver par terre. Dobby a entendu le professeur McGonagall et le professeur Maugrey. Ils parlaient de la prochaine tâche dans la salle des professeurs. Et Dobby ne laissera pas Harry Potter perdre son whisky.
Les derniers doutes de Harry s'évanouirent. Il se leva d'un bond, fourra sa cape d'invisibilité dans son sac, glissa la branchiflore dans sa poche, puis sortit en trombe de la bibliothèque, Dobby sur ses talons.
« Dobby doit très vite retourner en cuisine, monsieur. On a besoin de Dobby là-bas. Oh, bonne chance, Harry Potter. Bonne chance, monsieur. »
« À plus tard, Dobby !» lui lança Harry. Il courut le long du couloir et descendit les marches 4 à 4. Dans le hall d'entrée, quelques retardataires sortaient encore de la grande salle où ils venaient de prendre leur petit déjeuner et se dirigeaient vers le parc pour assister à la deuxième tâche. Ils regardèrent Harry traverser le hall au pas de course et projeter Colin et Denis Grivet dans les airs tandis qu'ils sautaient au bas des marches de pierre et se précipitaient vers le lac. Il vit au loin que les tribunes installées autour de l'enclos Dragon au mois de novembre se dressaient à présent sur la rive opposée du lac. Elles étaient bondées de spectateurs et la rumeur des conversations enthousiastes résonnait étrangement à la surface de l'eau. Harry courut à perdre haleine en direction des juges, assis à une autre table drapée d'or au bord du lac. Cédric, Fleur et Krum se trouvaient déjà à côté de la table et regardaient Harry se ruer vers eux. « J'arrive !» dit-il d'une voix haletante. Il s'arrêta en dérapant sur le sol boueux et éclaboussa malencontreusement la robe de fleurs.
« Où étais-tu ? » demanda une voix impérieuse et réprobatrice. « L'épreuve est sur le point de commencer !»
Harry se retourna et vit Percy Wesley assis à la table des juges. Monsieur Croupton s'était fait remplacer une fois de plus.
« Allons, allons, Percy !»
dit Ludo Verpé qui paraissait profondément soulagé de voir Harry.
« Laisse-lui le temps de reprendre son souffle !»
Dumbledore adressa un sourire à Harry, mais Karkaroff et Madame Maxime n'avaient pas du tout l'air contents de le voir apparaître. En juger par l'expression de leur visage, ils avaient dû penser qu'il ne viendrait pas. Harry se pencha en avant, les mains sur les genoux, pour reprendre sa respiration. Il avait un point de côté qui lui donnait l'impression d'avoir un couteau planté dans les côtes, mais il n'avait pas le temps d'attendre qu'il disparaisse. Ludo Verpé s'était avancé vers les champions et les disposait à présent le long de la rive, à 3 mètres de distance les uns des autres. Harry se retrouva à l'autre bout du rang, à côté de Krum, qui était en maillot de bain et tenait sa baguette magique prête.
« Ça va, Harry ?»
demanda Verpé en le poussant un peu plus à l'écart de Krum.
« Tu sais ce que tu vas faire ?»«
Oui !» dit Harry le souffle court. il continuait de masser ses côtes douloureuses pour essayer de soulager son point de côté. Verpé lui serra l'épaule d'un petit geste amical et retourna à la table des juges. Il dirigea alors sa baguette magique vers sa gorge et murmura « Sonorus ». Aussitôt, sa voix résonna de la surface du lac jusqu'aux tribunes dressées sur la rive opposée.
« Et voilà ! Tous nos champions sont prêts à entreprendre la deuxième tâche qui commencera à mon coup de sifflet. Ils auront exactement une heure pour reprendre ce qui leur a été enlevé. Attention ! À trois ! Un ! Deux ! Trois ! »
Un coup de sifflet strident retentit dans l'air frais du matin. Des applaudissements et des cris explosèrent dans les tribunes. Sans regarder ce que faisaient les autres champions, Harry enleva ses chaussures et ses chaussettes, sortit la branchiflore de sa poche, la fourra dans sa bouche et entra dans l'eau. Le lac était si froid qu'il avait l'impression qu'on lui brûlait la peau des jambes. À mesure qu'il s'enfonçait, sa robe mouillée pesait de plus en plus lourd. L'eau lui arrivait à présent au-dessus du genou et ses pieds engourdis glissaient sur des pierres plates, recouverte de vases et de limons. Il mâchait la branchiflore qui avait une consistance visqueuse, caoutchouteuse, comme des tentacules de pieuvre. Enfoncé jusqu'à la taille dans l'eau glacée, il s'arrêta, avala et attendit que quelque chose se passe. Il entendait la foule rire et savait qu'il devait avoir l'air parfaitement stupide à marcher ainsi dans l'eau sans manifester le moindre pouvoir magique. À moitié immergé, une brise cruellement glacée ébouriffant ses cheveux, il tremblait de la tête aux pieds. Harry évita de regarder en direction des tribunes. Les rires étaient de plus en plus bruyants, les serpentards le sifflaient et se moquaient de lui. Puis, brusquement, il eut l'impression qu'on lui plaquait un oreiller invisible sur la bouche et sur le nez. Il essaya de reprendre sa respiration, mais ses efforts lui donnèrent le tournis. Ses poumons étaient vides, et il éprouva soudain une douleur fulgurante de chaque côté du cou. Harry porta ses mains à sa gorge et sentit sous ses oreilles deux larges fentes dont les bords palpitaient dans la brise froide. Il avait à présent des branchies. Sans prendre le temps de réfléchir, il se jeta dans le lac. La première gorgée d'eau glacée lui sembla comme un souffle de vie. La tête cessa de lui tourner. Il avala à nouveau une longue gorgée d'eau qu'il sentit ressortir doucement par ses branchies en envoyant au passage de l'oxygène dans son cerveau. Lorsqu'il tendit les mains devant lui, il s'aperçut qu'elles avaient pris une teinte verdâtre, fantomatique, et que ses doigts étaient palmés. En tournant la tête, il vit que ses pieds s'étaient allongés et que ses orteils, eux aussi, étaient palmés. On aurait dit que des nageoires lui étaient poussées. L'eau avait cessé d'être glacée. Elle semblait au contraire agréablement fraîche et légère. Harry continua d'avancer, s'émerveillant de la vitesse à laquelle ses pieds en forme de nageoire le propulsaient dans l'eau. Il arrivait à voir clairement autour de lui sans avoir besoin de cligner des yeux. Bientôt, il eut nagé si loin qu'il ne distinguait plus le fond du lac. Il bascula alors verticalement et s'enfonça dans les profondeurs. Le silence devenait de plus en plus épais tandis qu'il découvrait un étrange et sombre paysage nimbé de brume. À présent, sa visibilité était réduite, et à mesure qu'il avançait, de nouveaux contours se dessinaient dans les ténèbres. De véritables forêts de plantes aquatiques ondulaient lentement. De larges étendues de boue étaient jonchées de pierres qui miroitaient faiblement dans la pénombre. Il descendit de plus en plus loin vers le cœur du lac, scrutant ses profondeurs grises et inquiétantes, essayant de percer le mystère de ses ombres, là où l'eau devenait opaque. De petits poissons frétillaient autour de lui, comme des fléchettes d'argent. Par deux fois, il crut voir quelque chose de plus grand bouger un peu plus loin, mais lorsqu'il s'en approcha, il ne découvrit qu'un gros morceau de bois noirci et un enchevêtrement particulièrement dense de plantes aquatiques. Il n'y avait pas trace d'autres champions, ni de sirènes, ni de rhônes, ni, fort heureusement, de calmars géants. Des herbes d'un vert pâle, d'une cinquantaine de centimètres de hauteur, s'étendaient devant lui aussi loin que portait son regard, comme une prairie luxuriante. Les yeux grands ouverts, Harry essayait de distinguer des formes dans l'obscurité, mais soudain, il sentit quelque chose lui saisir la cheville. Harry se retourna et vit un strangulot, un démon des eaux, doté de petites cornes qui venaient de surgir d'entre les herbes. Ses longs doigts étaient étroitement serrés autour de sa jambe et il montrait ses dents pointues.
Harry glissa sa main palmée dans sa poche à la recherche de sa baguette magique. Lorsqu'il eut enfin réussi à la saisir, deux autres strangulots avaient jailli des herbes et s'étaient accrochés à sa robe, essayant de la tirer vers le fond. « Lâche la masque !» s'écria Harry, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Seule une grosse bulle s'échappa d'entre ses lèvres et, au lieu de produire des étincelles, la baguette magique projeta sur les strangulots quelque chose qui devait être un jet d'eau bouillante, car des taches rouges apparurent sur leur peau verte comme des marques de fureur. Harry arracha sa cheville à l'étreinte de la créature et se mit à nager aussi vite qu'il le pouvait, envoyant régulièrement d'autres jets d'eau bouillante par-dessus son épaule, sans prendre la peine de viser. De temps à autre, il sentait un strangulot lui attraper à nouveau la cheville et donner de grands coups de pied pour s'en débarrasser. Finalement, il sentit son pied toucher une tête cornue. Il se retourna et vit un strangulot étourdi dériver en zigzag, le regard brouillé, tandis que ses congénères menaçaient Harry du poing avant de disparaître à nouveau parmi les herbes. Harry ralentit un peu l'allure, remit sa baguette dans sa poche et regarda autour de lui, l'oreille aux aguets, en décrivant un cercle complet dans l'eau. Un silence pesant oppressait ses tympans engourdis. Il savait qu'il devait se trouver à une profondeur encore plus grande, mais rien ne bougeait, à part les herbes aquatiques qui ondulaient lentement.
« Alors, ça marche ?»
Harry crut qu'il allait avoir une crise cardiaque. Il pivota brusquement et vit la silhouette floue de Mimi Géniard qui flottait devant lui, en le regardant à travers ses épaisses lunettes brillantes comme des perles.
« Mimi !»
essaya de dire Harry, mais cette fois encore, seule une très grosse bulle sortit de sa bouche. Mimi Géniard, en revanche, parvint à pouffer de rire.
« Tu devrais essayer là-bas » dit-elle en pointant le doigt. « Je préfère ne pas venir avec toi, je les aime pas beaucoup. Ils me courent toujours après quand je m'approche. »
Harry leva le pouce pour la remercier et suivit la direction indiquée en prenant soin de nager plus haut au-dessus des herbes afin d'éviter les strangulots qui s'y cachaient. Il nagea ainsi pendant une vingtaine de minutes. Il voyait défiler de vastes étendues noires d'où s'échappaient des tourbillons de boue dans les remous qu'il provoquait. Enfin, il entendit un morceau de l'obsédante chanson des sirènes.
« Pendant une heure entière, il te faudra chercher si tu veux retrouver ce qu'on t'a arraché. »
Harry nagea plus vite et vit bientôt un grand rocher se dessiner dans l'eau boueuse. Des dessins de sirènes et de tritons y étaient gravés. Ils étaient armés de lances et poursuivaient ce qui paraissait être le calmar géant. Harry passa devant le rocher en suivant le son de la chanson qu'il continuait d'entendre.
« La moitié de ton temps s'est enfui, hâte-toi, sinon ce que tu cherches en ces eaux pourrira. »
Des bâtisses rudimentaires de pierres brutes, murs parsemés d'algues, apparurent soudain de tous côtés dans la pénombre. Par endroits, derrière les fenêtres sombres, Harry apercevait des visages. Des visages qui ne ressemblaient en rien au portrait de la sirène dans la salle de bain des préfets. Ces êtres avaient la peau grise et de longs cheveux hirsutes, d'une couleur vert sombre. Leurs yeux étaient jaunes, tout comme leurs dents cassées, et ils portaient autour du cou de grosses cordes fabriquées avec des cailloux. Ils lancèrent à Harry des regards mauvais en le voyant passer, et un ou deux d'entre eux sortirent de leurs repères pour l'observer de plus près, une lance à la main, leur puissante queue de poisson argenté battant l'eau avec force. Harry nagea encore plus vite. Et bientôt, les abris de pierre devinrent de plus en plus nombreux. Certains étaient entourés de jardins de plantes aquatiques, et il vit même un strangulot apprivoisé attaché à un piquet devant une porte. Les êtres de l'eau sortaient de tous les côtés à présent. Ils le regardaient avec avidité, montraient ses mains palmées, ses branchies, échangeaient des remarques sur son passage, la main devant la bouche. Harry accéléra l'allure, et un très étrange spectacle s'offrit alors à ses yeux. Une véritable foule était rassemblée devant les bâtisses qui délimitaient une sorte de place de village aquatique. Un chœur composé d'êtres de l'eau chantait au milieu de la place, invitant les champions à s'approcher. Derrière le chœur, grossièrement taillé dans un bloc de rocher, s'élevait une gigantesque statue qui représentait une de ces créatures. Quatre personnes étaient solidement attachées à la queue de poisson de la statue. Ron était ligoté entre Hermione et Cho Chang. Il y avait aussi une fillette qui ne devait pas avoir plus de 8 ans. En voyant ses longs cheveux d'un blond argenté qui flottaient autour d'elle comme un nuage, Harry eut la certitude qu'il s'agissait de la sœur de Fleur de la Cour.
Tous les quatre semblaient plongés dans un sommeil profond, leurs têtes ballottées sur leurs épaules, et de minces filets de bulles s'échappaient régulièrement entre leurs lèvres. Harry se précipita vers les prisonniers. Il s'attendait à voir les êtres de l'eau foncer sur lui en brandissant leurs lances, mais ils ne firent pas un geste. Les prisonniers étaient attachés avec de grosses cordes, solides et visqueuses, constituées d'herbes aquatiques entremêlées. Pendant une fraction de seconde, Harry pensa au couteau de poche que Sirius lui avait offert pour Noël et qui était soigneusement rangé dans sa valise, dans le dortoir de Gryffondor. Il regarda autour de lui. Pour la plupart, les êtres de l'eau qui l'entouraient étaient armés de lances. Il nagea rapidement vers une sorte de triton de plus de 2 mètres de haut, portant une longue barbe verte et un étroit collier de dents de requin, et s'efforça de lui demander par geste s'il voulait bien lui prêter sa lance. Mais le triton éclata de rire en hochant vigoureusement la tête.
« Nous n'aidons personne !»
dit-il d'une voix rauque et dure.
« Allez, vite !»
dit Harry d'un air féroce, mais seules des bulles lui sortaient de la bouche. Il essaya de lui arracher la lance des mains, mais le triton dégagea son arme d'un coup sec en continuant de rire et de hocher la tête. Harry tourna sur lui-même, jetant des regards partout à la recherche d'un objet tranchant, n'importe lequel. Des pierres jonchaient le fond du lac. Il plongea, en ramassa une qui lui paraissait particulièrement acérée, et retourna devant la statue. Il entreprit de trancher la corde qui attachait Ron et, après plusieurs minutes d'efforts acharnés, parvint enfin à la sectionner. Ron, inconscient, flotta dans l'eau à quelques centimètres au-dessus du fond, dérivant légèrement au gré des mouvements de l'eau. Harry regarda dans toutes les directions, mais il n'y avait aucun signe des autres champions. Que fabriquait-il? Qu'attendait-il pour se précipiter au secours des prisonniers? Il se retourna vers Hermione, leva la pierre tranchante et s'attaqua également à ses liens. Mais aussitôt, des mains solides, à la peau grise, se saisirent de lui et le tirèrent en arrière. Une demi-douzaine d'êtres de l'eau l'éloignèrent ainsi d'Hermione, hochant leur tête aux cheveux verts et riant aux éclats.
« T'es vrai, ton propre prisonnier, dit l'un d'eux, et tu laisses les autres !»«
Certainement pas !» répliqua Harry avec fureur, mais seules 2 grosses bulles sortirent de sa bouche.
« Tu as pour mission de délivrer ton ami. Les autres, tu les laisses. »«
Elle aussi, c'est mon amie !» s'écria Harry en faisant de grands gestes vers Hermione. Une énorme bulle d'argent s'échappa d'entre ses lèvres. « Et elle non plus, je ne veux pas qu'elle meure !» La tête de Cho reposait sur l'épaule d'Hermione. La petite fille, aux cheveux d'argent, était d'une pâleur fantomatique. Harry se débattit pour essayer de se dégager, mais les êtres de l'eau resserrèrent leur étreinte en riant plus fort que jamais. Harry jetait des regards frénétiques autour de lui. Mais où étaient donc les autres champions? Aurait-il le temps de ramener Ron à la surface et de revenir délivrer Hermione et les autres? Parviendrait-il à les retrouver? Il regarda sa montre pour voir combien de temps il lui restait. Elle s'était arrêtée. Soudain, les êtres de l'eau pointèrent le doigt au-dessus de lui, l'air surexcité. Harry leva les yeux et vit Cédric qui nageait vers eux. Il avait autour de la tête une énorme bulle qui élargissait étrangement son visage en déformant ses traits. « Me suis perdu. » Aucun son n'était sorti de sa bouche, mais Harry avait lu sur ses lèvres. Cédric avait l'air paniqué. « Fleur et Chrome arrivent. » Harry éprouva un immense soulagement. Il regarda Cédric sortir un couteau de sa poche, trancher la corde qui retenait Cho prisonnière, puis l'emmener et disparaître dans l'obscurité du lac. Où étaient Fleur et Chrome? Il ne restait plus beaucoup de temps. Et si l'on en croyait les paroles de la chanson, au bout d'une heure, les prisonniers seraient perdus. Brusquement, les êtres de l'eau se mirent à pousser des cris perçants. Ceux qui tenaient Harry relâchèrent leurs étreintes en regardant par-dessus leur épaule. Harry se retourna et vit une créature monstrueuse foncer droit sur eux. Elle avait un corps humain vêtu d'un maillot de bain et une tête de requin. C'était Chrome. Apparemment, il avait essayé de se métamorphoser mais n'avait pas très bien réussi. L'homme requin nagea droit sur Hermione et commença à ronger la corde qui l'attachait à la statue. Mais les nouvelles dents de Chrome n'étaient pas très pratiques pour mordre quelque chose de plus petit qu'un dauphin, et Harry se demanda s'il n'allait pas finir par couper Hermione en deux. Se précipitant vers eux, il donna un grand coup sur l'épaule de Chrome et lui tendit la pierre tranchante. Chrome la saisit et entreprit de sectionner la corde. Il y parvint en quelques secondes, attrapa Hermione par la taille et, sans un regard en arrière, la remonta rapidement en direction de la surface. Et maintenant, pensa Harry désespérément, s'il avait été sûr que Fleur arrivait, mais il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Il fallait faire quelque chose. Il ramassa la pierre que Chrome avait laissée tomber,
mais les êtres de l'eau s'avancèrent vers lui et entourèrent Ron et la fillette en hochant la tête. Harry brandit sa baguette magique. « Fichez le camp !» Cette fois encore, il ne sortit que des bulles de sa bouche, mais il eut la très nette impression que les êtres de l'eau l'avaient compris, car ils cessèrent soudain de rire. Leurs yeux jaunâtres fixés sur la baguette de Harry, ils semblaient avoir peur. Ils étaient sans nul doute beaucoup plus nombreux que lui, mais Harry devinait, d'après l'expression de leur visage, qu'il n'en savait pas plus en matière de magie que le calmar géant. « Je compte jusqu'à 3 !» cria Harry. Une longue traînée de bulles sortit de sa bouche, et il leur montra 3 doigts pour être sûr de bien se faire comprendre. 1. Il baissa un doigt. 2. Il baissa un deuxième doigt. Les êtres de l'eau s'éloignèrent aussitôt, libérant le passage. Harry se roula en avant et commença à entailler la corde qui attachait la petite fille à la statue. Quelques instants plus tard, il l'avait délivrée. Il saisit la fillette par la taille, attrapa Ron par le col de sa robe et s'élança vers la surface en donnant un grand coup de pied au fond du lac pour prendre de l'élan. Sa progression fut très lente. Ses mains palmées, occupées à tenir Ron et la fillette, ne lui étaient plus d'aucun secours et il agitait frénétiquement les pieds pour essayer de remonter le plus vite possible. Mais le poids de Ron et de la sœur de Fleur l'attirait vers le fond. Il leva les yeux avec espoir. Hélas, l'obscurité qui régnait autour de lui ne pouvait laisser aucun doute. Il était encore très loin de la surface. Les êtres de l'eau l'accompagnaient dans sa remontée. Il les voyait tournoyer autour de lui avec aisance en le regardant se débattre. Allait-il le ramener au fond du lac lorsque le temps serait écoulé? Peut-être mangeait-il les humains. Harry sentait ses jambes s'engourdir. À force de tenir à bout de bras Ron et la fillette, ses épaules commençaient à lui faire terriblement mal. Il avait les plus grandes difficultés à respirer et sentait à nouveau une douleur de chaque côté de son cou. Le flux de l'eau qui coulait dans sa bouche lui semblait de plus en plus perceptible. Mais l'obscurité se dissipait nettement. Il voyait même la lumière du jour au-dessus de lui. Il agita ses nageoires et s'aperçut qu'elles étaient redevenues de simples pieds. L'eau qui s'engouffrait dans sa bouche descendait à présent dans ses poumons. Il commençait à voir le tournis et il savait que l'air et la lumière n'étaient plus qu'à 3 mètres au-dessus de sa tête. Il fallait arriver jusque-là. Il le fallait. Harry remua les jambes si vite et avec tant de force qu'il eut l'impression que ses muscles poussaient des cris de protestation. Son cerveau lui-même paraissait flotter dans l'eau. Il n'arrivait plus à respirer. Il avait besoin à tout prix d'oxygène. Il fallait continuer, continuer, surtout ne pas s'arrêter. Tout à coup, il sentit sa tête émerger à la surface du lac. De l'air, un air frais, lumineux, délectable, qui lui picotait le visage. Il en inspira avidement une longue bouffée, comme si c'était la première fois de sa vie qu'il respirait vraiment. Puis, hors d'haleine, il hissa Ron et la fillette à la surface. Tout autour de lui, des têtes aux cheveux verts émergèrent à leur tour. Mais cette fois, les êtres de l'eau lui souriaient. Un grand tumulte s'élevait des tribunes. Les spectateurs s'étaient levés. Ils criaient, hurlaient, comme s'ils avaient peur que Ron et la fillette soient morts. Ils avaient tort. Tous deux venaient d'ouvrir les yeux. La petite fille, apeurée, avait l'air de se demander ce qu'elle faisait là. Mais Ron, lui, cracha un long jet d'eau, cligna les yeux et dit à Harry, « Un peu humide par ici. » Puis, voyant la sœur de Fleur, il ajouta, « Pourquoi tu l'as ramenée ?» Fleur n'arrivait pas, expliqua Harry la respiration haletante. « Je ne pouvais pas la laisser. »« Harry, quel idiot tu fais ?» s'exclama Ron. « Tu n'as quand même pas pris cette chanson au sérieux. Dumbledore ne nous aurait pas laissé mourir au fond de l'eau. » Mais là, la chanson disait « C'était simplement pour vous obliger à revenir dans un délai de 1 heure. J'espère que tu n'as pas perdu de temps là-dessous à jouer les héros. » Harry se sentit à la fois stupide et agacé. Pour Ron, c'était facile. Il était endormi. Il n'avait pas eu à explorer les profondeurs terrifiantes du lac, entouré d'êtres de l'eau armés de lances et visiblement décidés à s'en servir. « Tu ferais mieux de m'aider à la sortir de là, » dit Harry en montrant d'un signe de tête la sœur de Fleur. « Elle n'a pas l'air de très bien savoir nager. » Ils ramenèrent la fillette vers la rive où les juges les attendaient. Une 20aine d'êtres de l'eau les accompagnaient comme une garde d'honneur, en chantant d'une voix criarde leur horrible chanson. Harry vit Madame Pomme-Fraîche s'affairer autour d'Hermione, Krum, Cédric et Cho, tous 4 enveloppés dans d'épaisses couvertures. Dumbledore et Ludo Verpé, debout, côte à côte, souriaient à Harry et à Ron qui se rapprochaient de la rive. Mais Percy, qui semblait très pâle et soudain plus juvénile qu'à l'ordinaire, se précipita à leur rencontre en pataugeant dans l'eau.
Pendant ce temps, Madame Maxime essayait de retenir Fleur de la Cour, prise d'une véritable crise de nerfs, qui se débattait comme une diablesse pour retourner dans l'eau.
« Gabrielle, Gabrielle, elle est vivante, hein? Elle est blessée, enfin c'est insensé, mais lâchez-moi oh !»«
Elle va très bien », essaya de dire Potter, mais il était tellement épuisé qu'il parvenait à peine à parler, encore moins à crier. Percy attrapa Ron par les épaules et le traîna jusqu'à la rive.
« Fiche-moi la paix, Percy, ça va très bien !»
Dumbledore et Verpé aidèrent Harry à se relever et Fleur, qui avait réussi à se dégager de Madame Maxime, se précipita sur sa sœur pour la serrer dans ses bras.
« C'est à cause des strangulots. Ces bestioles sont insensément attaquées, Gabriel. Oh, Gabriel, j'ai cru que... »«
Viens ici, toi !»
dit la voix de Madame Pomfraîche. Elle prit Harry par le bras et l'amena auprès d'Hermione et des autres. Elle l'enveloppa alors dans une couverture en serrant si fort qu'il eut l'impression de se retrouver dans une camisole de force. Puis elle l'obligea à avaler une potion incroyablement pimentée qui lui fit sortir de la vapeur par les oreilles.
« Harry !» « Bravo !» s'écria Hermione. « Tu es arrivé. Tu as trouvé le moyen tout seul. »
« Oh !» dit Harry. Il aurait voulu lui raconter ce qu'avait fait Dobby, mais il venait de s'apercevoir que Karkaroff les observait. C'était le seul juge qui n'avait pas quitté la table, le seul juge qui n'ait manifesté aucun signe de joie ou de soulagement en voyant que Harry, Ron et la sœur de Fleur étaient sortis du lac sains et saufs.
« Oui !» « Mais oui, c'est ça, j'ai fini par trouver !»
reprit Harry en élevant légèrement la voix pour que Karkaroff puisse l'entendre.
« Tu as un scarabée dans les cheveux, Hermione !»
dit Krum. Harry eut l'impression qu'il voulait attirer l'attention d'Hermione pour lui seul, peut-être pour lui rappeler qu'il venait de la sauver. Mais Hermione se contenta de chasser le scarabée d'un geste impatient et dit à Harry
« L'ennui, c'est que tu as dépassé la limite du temps. Tu as eu tant de mal à nous trouver ?»
« Non, je vous ai trouvé assez facilement. » Harry se sentait de plus en plus stupide. À présent qu'il était sorti de l'eau, il semblait parfaitement évident que Dumbledore avait pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer qu'aucun prisonnier ne risquait de se noyer, même si son champion ne parvenait pas à le délivrer. Pourquoi ne s'était-il pas contenté de ramener Ron ? Il aurait été le premier à revenir. Cédric et Krum, eux, n'avaient pas perdu de temps à se soucier des autres. Ils n'avaient pas pris au sérieux la chanson des êtres de l'eau. Dumbledore, accroupi sur le rivage, était en grande conversation avec ce qui paraissait être le chef des êtres de l'eau, une sirène à l'aspect particulièrement sauvage et féroce. Dumbledore émettait les mêmes cris perçants que les êtres de l'eau lorsqu'ils s'exprimaient à l'air libre. De toute évidence, il parlait les langues aquatiques. Enfin, il se releva, se tourna vers les autres juges et dit
« Je demande une réunion du jury avant de donner les notes ».
Les juges se rassemblèrent aussitôt à l'écart des oreilles indiscrètes. Entre-temps, Madame Pomfraîche avait arraché Ron aux mains de Percy. Elle le ramena auprès de Harry et des autres, lui donna une couverture et de la pimentine, puis alla chercher Fleur et sa sœur. Fleur avait de nombreuses écorchures au visage et aux bras, et sa robe était déchirée. Mais elle ne semblait pas s'en soucier et refusa de laisser Madame Pomfraîche lui administrer des soins.
« Occupez-vous plutôt de Gabriel !» lui dit-elle. Puis se tournant vers Harry, la respiration haletante, elle ajouta « Tu l'as sauvée. Et pourtant, ce n'était pas elle que tu devais délivrer. »«
Ouais, » répondit Harry, qui regrettait amèrement de ne pas avoir laissé les trois filles attachées à la statue. Fleur se pencha, embrassa Harry sur chaque joue. Il sentit son visage s'embraser et n'aurait pas été surpris que de la vapeur lui sortît à nouveau des oreilles. Puis Fleur dit à Ron,
« Toi aussi tu as aidé. »«
Oui, » répondit Ron, le regard plein d'espoir.
« Oui, un peu. »
Elle se pencha également vers lui et l'embrassa à son tour. Hermione avait l'air furieux, mais au même moment, la voix magiquement amplifiée de Ludo Verpé résonna derrière eux et les fit sursauter. Dans les tribunes, la foule se tut aussitôt.
« Mesdames et messieurs, nous venons de prendre une décision. La sirène Murcus, chef des êtres de l'eau, nous a fait le compte-rendu détaillé de ce qui s'est passé au fond du lac. Et en conséquence, voici les notes. » Sur 50, que nous avons décidé d'accorder à chacun des champions. Miss Fleur de la Cour, bien qu'elle ait fait un excellent usage du sortilège de tête en bulle, a été attaquée par des strangulots en s'approchant du but et n'a pas réussi à délivrer sa prisonnière. Nous lui accordons 25 points.
Des applaudissements s'élevèrent dans les tribunes.
C'est insensé, je méritais zéro, dit Fleur en hochant sa tête aux cheveux magnifiques.
Monsieur Cédric Diggory, qui a également fait usage du sortilège de tête en bulle, a été le premier à revenir avec sa prisonnière, bien qu'il ait dépassé d'une minute le temps imparti.
Un tonnerre d'acclamations retentit dans les rangs des Poufsouffles et Harry Vitchaud lançait à Cédric un regard brillant.
« Nous lui accordons par conséquent 47 points !»
Harry eut un pincement au cœur. Si Cédric avait dépassé la limite du temps, c'était encore pire pour lui.
« Monsieur Victor Crowe,
reprit Ludo Verpé,
« a eu recours à une forme incomplète de métamorphose qui s'est quand même révélée efficace puisqu'il a été le deuxième à ramener sa prisonnière. Nous lui accordons 40 points !»
L'air très supérieur, Karkaroff applaudit de toutes ses forces.
« Monsieur Harry Potter !» a utilisé d'une manière très judicieuse les propriétés de la branchiflore, poursuivit Verpé. Il est revenu le dernier et bien après la limite du temps. Toutefois, la sirène Murcus nous a informé que M. Potter a été le premier à arriver auprès des prisonniers et que son retard est dû à la détermination qu'il a manifestée de ramener tous les prisonniers, pas seulement le sien.
Ron et Hermione jetèrent à Harry un regard où se mêlaient l'exaspération et la commisération.
« La plupart des juges, »
et Ludo Verpé lança alors à Karkaroff un coup d'œil féroce,
« pense que cette attitude démontre une grande force morale qui aurait mérité la note maximum. Il obtient cependant 45 points. »
Harry sentit son cœur faire un bond. Il était à présent premier ex aequo avec Cédric. Ron et Hermione, pris au dépourvu, se tournèrent vers Harry, puis éclatèrent de rire et se mirent à applaudir aussi fort que la foule des spectateurs.
« Bravo, Harry !» cria Ron dans le tumulte général. « Après tout, tu n'as pas été si idiot que ça. C'était de la force morale, tout simplement !»
Fleur, elle aussi, applaudissait avec vigueur. Krum, en revanche, n'avait pas l'air content du tout. Il essaya à nouveau d'engager la conversation avec Hermione, mais elle était trop occupée à acclamer Harry pour l'écouter.
« La troisième et dernière tâche se déroulera le 24 juin au coucher du soleil !» reprit Verpé. Les champions seront informés de la nature de cette tâche un mois exactement avant sa date. Merci à tous du soutien que vous avez manifesté aux champions.
C'était terminé. Pensa Harry un peu étourdi, tandis que Madame Pomme-Fraîche rassemblait les champions et les prisonniers pour les ramener au château et leur donner des vêtements secs. C'était terminé. Il avait passé l'épreuve. Il n'avait plus à se soucier de rien jusqu'au 24 juin. En remontant les marches du château, il décida que la prochaine fois qu'il irait à Préaulard, il achèterait à Dobby une paire de chaussettes pour chaque jour de l'année.